19h-20h, conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Mais surtout avec Claire Castillon. Bonsoir Claire.
Bonsoir.
Vous êtes l'auteur de 13 romans et 6 recueils de nouvelles, si j'ai bien compté. Avez-vous compté vous-même ?
Non.
Non. Alors, je l'ai fait pour vous. Vous êtes... vous êtes né le 25 mai, je ne dis pas en quelle année. Donc, joyeux anniversaire, enfin, un peu, avec un tout petit peu de retard. Mais voilà, c'est fait. Vos livres sont très drôles, très macabres, très provocateurs. Vous êtes un des meilleurs auteurs de nouvelles en France actuellement et vous publiez un recueil de 21 nouvelles qui s'intitule L'œil chez Gallimard. Est-ce qu'il y a un thème qui réunit toutes ces nouvelles et explique ce titre qui serait peut-être... Je réponds dans la question, hein. Je n'ai pas besoin de vous pour faire mon émission,
c'est
je vous
formidable.
Le dis tout de suite, Claire Castillon.
Ça marche.
Le thème serait peut-être la différence entre ce qu'on voit et la réalité.
Oui,
voilà.
En plus c'est vrai.
Développer.
Alors, je crois, enfin, j'imagine que l'œil, c'est ça. C'est vraiment tout ce qui nous entoure tout le temps, qui nous regarde et que nous, on veut pas forcément voir. Donc, c'est un peu tout ce qui est caché, tout ce qui est derrière le trou de la serrure. Et puis, tout ce qui est faux aussi.
Et ce décalage crée des situations extrêmement comiques, embarrassantes. On va en avoir un exemple tout de suite. Dans votre lecture, je vous demande de lire le début de la nouvelle intitulée « Mariage ». Oui, 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 vous vous doutez bien qu'il va y avoir des problèmes. Vous n'avez pas voulu naître. Ah oui, alors je n'ai pas dit l'année de naissance. Oui, les invités de mon émission ne savent pas qu'ils vont devoir lire leur prose. Et ça, c'est un problème. Je meuble en attendant qu'elle soit prête. Hein, pardon.
Ah, ça y est, je suis prête. Mariage. Je ne supporte pas les filles qui rient dans les publicités, surtout quand elles portent un pantalon blanc et tirent sur les manches de leur gilet comme des enfants, en jubilant dans leur printemps éternel. Certaines de nos invitées me font penser à ça. Pourtant, ma femme est la seule en blanc. Sa robe pendait à la fenêtre du salon depuis 2 semaines quand elle l'a enfilée. Elle lui va bien, même si les mouvements de tissu décrivent autour d'elle des tentacules. Notre fougue matinale était douce, nous avons sagement réfréné nos élans parce que nous devions partir nous marier et garder la robe bien repassée.
Voilà, vous voyez, ça, tout de suite, on devine que le mariage ne va pas si bien se passer. D'ailleurs, c'est vrai, je dévoile rien en disant ça, le mari va tomber amoureux d'une autre, hein, le jour de son mariage, une fille en robe rouge. Et est-ce que je peux aller jusqu'au bout de la nouvelle ou vous êtes contre les spoilers ?
Non, non, ça ne me gêne pas. Non, non, ce n'est pas ça qui compte.
Non, ça ne compte pas tellement. Enfin, c'est quand même... C'est très drôle, hein, mais alors ça termine sur une double chute. Je vais expliquer ce que vous avez trouvé comme idée dans ce recueil. C'est qu'à la fin de chacune des 21 histoires, il y a une annexe. Et cette annexe permet de retourner encore plus ce qui vient d'arriver. Donc là, le mariage est sinistre, le marié fantasme sur une invitée. La double chute, c'est qu'il va quitter sa femme, mais en même temps qu'il va lui écrire une carte postale. Voilà, donc ça c'est un exemple. Je ne vais plus divulguer aucune de vos chutes pendant le reste de l'émission, c'est promis. Alors, les thèmes sont très nombreux. Bon, par exemple, il y en a une qui s'intitule « L'orée du parc » avec une maîtresse arnaquée par un joueur de poker. Ça peut être un hommage à Stéphane Zweig, peut-être, je ne sais pas.
J'y avais pas pensé. D'accord.
J'ai arrêté de parler, c'est promis. Alors, il y en a une que j'aime beaucoup. C'est un adolescent de 15 ans qui a toujours une tétine.
Absolument, oui, oui, oui. Et un biberon le soir, dans les bras de sa mère.
Qu'est-ce qui vous a donné cette idée démente ?
Je connais pas mal de mères très toxiques qui ont tendance à infantiliser leurs enfants. Et je me suis dit, pourquoi pas, en effet, pourquoi pas continuer la tétine, le biberon avec un jeune garçon qui devient de plus en plus vieux, puisque à la fin de la nouvelle, il doit avoir 30 ans ou 40, je ne sais plus.
Et dans le post-scriptum, donc cette fameuse annexe qui permet de rendre encore plus drôle ce qu'on vient de lire, là, c'est l'épouse qui est bien pire que la mère toxique. L'épouse est encore plus toxique que la mère. Alors, récemment, à la télévision, nous avons pu entendre un écrivain de sexe féminin qui s'appelle Faïza Ghen, qui a dit du mal de Franz Kafka, qui a dit qu'elle ne comprenait rien à la métamorphose, que c'était une histoire bizarre avec un type qui se transforme en cafard, que ça n'avait aucun intérêt. Vous êtes probablement l'écrivain le plus kafkaïen que je connaisse. Vous êtes la reine de l'humour noir et vous aimez raconter des histoires tragiques, trash, mais en rigolant. Alors, que pensez-vous du fait qu'on critique Kafka dans des grandes émissions françaises ?
Je me dis que quand on est écrivain, et pas forcément parce qu'on n'a rien à dire, mais c'est pas mal parfois, on n'est pas obligé de parler, on peut se taire. Donc moi, je pratique beaucoup ça, parce que ça m'arrange, mais parce que je pense que ça m'évite de dire des bêtises aussi. Sur Kafka, oui, je ne fais pas exprès. Moi, c'est vrai que je suis pas attirée seulement par le drôle, je suis attirée par le bizarre et vraiment l'absurde qui s'inscrit parfaitement dans le quotidien. Mais je le vois, je n'ai pas besoin d'aller le chercher très loin, en fait, je le vis toujours.
Ah, vous avez des idées, même une idée de business qu'on devrait créer, c'est l'agence de rupture. Ah, ça, oui. Franchement, ça marcherait bien, à mon avis. Une agence qui organise les ruptures des couples.
Absolument, qui prend en charge, pas la décision, mais la déclaration et les suites, en fait. Et pas la reconstruction.
Alors, ça n'a rien à voir, mais on va écouter votre premier choix musical. C'est Purcell, La mort de Didon, extrait de Didon et Aîné, chanté par Jesse Norman. Jesse Norman, j'accepte que vous m'interrompiez.
Thank you.
Merci pour ce très grand moment de beauté triste, la mort de Didon. Pourquoi ce choix d'ailleurs ?
Quand on me demande des choix musicaux, je rame toujours un petit peu. Et puis c'est vrai que je me rapproche toujours des voix. Et des voix qui m'emportent quand je les écoute, qui me font mal ou qui m'explosent la tête. Et là, c'est un air que j'aime beaucoup.
Vos personnages féminins, Claire Castillon, dans ce recueil, L'œil, chez Gallimard, sont souvent des romantiques idiotes. Et pourtant, vos hommes ne sont pas tous des connards. Disons que vous pensez que tomber... On a l'impression que les filles qui tombent amoureuses, elles se transforment en sottes. Et, pas en victimes, mais en... Mais elles perdent un peu la tête, quoi. Elles arrêtent de raisonner.
Ben celle-ci, en tout cas, dans l'œil, aime éperdument, en effet, quelque chose qu'elles espèrent, qu'elles attendent. On ne sait pas très bien si elles voient vraiment l'homme qui leur fait face ou si elles aiment absolument... on parlait de Laurie du parc avec cette femme qui va retrouver son amant, qui en fait ne la voit pas, joue au poker, etc. Donc je pense que tout son voyage, elle le fait en se disant à un moment il me verra, à un moment il remarquera que je suis là, et puis en fait jamais. Et oui, elle s'invente un amour intérieur, une sorte de porte de sortie, mais je pense que c'est tout à elle, c'est dans sa tête.
Est-ce que vous croyez que vos nouvelles sont post-MeToo ? Par exemple, il y a celle où la mère engueule sa fille parce qu'elle s'est faite violer. Carrément, la mère l'engueule, quoi.
Mais ça, c'est elle fait plus partie, cette mère-là, de mes mères qui reviennent souvent très autoritaires, très coincées dans un système. Et cette mère-là, en effet, 30 ans après le viol de sa fille, lui dit « Mais il faut que tu arrêtes de nous en parler, c'est insupportable. » Et puis tu mets tout le malheur de ta vie sur cet accident. Mais c'était trois fois rien, donc laisse tomber. C'est pas post-MeToo, c'est une espèce de d'appel d'amour. Je sais pas. Oui, moi, quand j'ai écrit ce genre de monologue, j'ai vraiment l'impression d'être... La fille qui crie pour recevoir un peu d'amour avec en face un mur perpétuel de marbre.
Oui, comme la mère de ce garçon qui lui laisse une tétine jusqu'à l'âge de 15 ans. Quoi. C'est vrai que vous avez beaucoup de marâtres, limite sorcières dans votre œuvre. Je peux peut-être récapituler un peu votre œuvre. Vous avez commencé avec un roman intitulé Le Grenier en l'an 2000, qui était très cru, très violent. Un peu répugnant, je veux dire que quelque chose n'allait pas, puisqu'à la fin, là, dans le grenier, en fait, qu'est-ce que c'était ? Oui, le grenier, c'était son corps qu'elle devait remplir.
C'était sa tête aussi.
Oui. Et l'héroïne, avec son amant marié, finissait par déguster une femme en fondue bourguignonne.
Non.
Non, ça, j'ai rêvé ?
Non, oui. Non, absolument.
C'est dans un autre livre, alors.
Non, c'est pas moi. Il n'avait pas la fondue.
Mais quand même, donc déjà, vous aviez cette espèce d'univers complètement un peu gothique.
C'était, je dirais pas gothique, je pense que vraiment c'était en effet sans frontière réelle entre le dedans et le dehors. Donc cette jeune fille, en effet, racontait ses émois sentimentaux et ça passait et par le corps et par la tête, mais sans plus de violence que ça, à mon avis, sauf celle de la jeunesse et du propos fleuri.
Et dans vos premiers romans, comment dire, peut-être vous cherchiez, je ne sais pas, il y avait beaucoup de choses très provocatrices. Exemple, dans La Reine Claude, en 2002, j'ai enfoncé ma langue dans la prise de courant. Ou alors j'ai cousu des lames de rasoir sur mon oreiller. Moi, à l'époque, je ne comprenais pas trop cette volonté de faire trash au maximum, quoi, ou de chercher la violence. C'est uniquement en 2006, avec Insect, votre premier recueil de nouvelles, je crois, qui a été un grand succès, traduit dans une vingtaine de pays. Est-ce que là, vous avez senti, en 2006, que vous aviez trouvé la bonne dose ou la forme qui vous convenait ?
Non, parce que j'ai continué à faire des romans, en fait. Simplement, j'imagine qu'en écrivant, j'ai écrit différemment et que les premiers romans avaient peut-être cette langue plus crue et qu'aujourd'hui, c'est peut-être le fond qui est plus noir et plus dur et la langue qui est moins crue.
Oui.
Et sans doute, et peut-être que d'écrire des nouvelles aussi a ciselé tout ça, ça c'est possible.
Quand je reviens à ce titre, Insect, c'est un titre complètement kafkaïen. Est-ce que c'était conscient ou inconscient ?
C'était parfaitement inconscient, d'autant que le titre insecte, qui est l'anagramme d'inceste, m'avait totalement échappé quand j'ai écrit une nouvelle sur l'inceste dans ce livre, qui s'appelle d'ailleurs, cette nouvelle-là s'appelle L'insecte, et donc c'est parfaitement inconscient, c'est très souvent inconscient.
Il faut qu'on vous allonge sur un canapé avec un psychanalyste professionnel pour creuser tout ça. Peut-être le point commun avec Kafka, c'est aussi le cynisme, hein, parce qu'il est quand même, il aime bien rire avec le malheur. Et chez vous, chaque phrase tombe comme un couperet. Par exemple, dans Les couplets, 2013, c'est vraiment la critique du couple hétéro. Alors là, pour le coup, c'est terrible, quoi. Et l'impossibilité de la passion durable est un des sujets principaux de tous vos livres.
Oui, un des sujets, oui, sur qui on aime et qu'est-ce qu'on aime là-dedans. Ça parle aussi quand même beaucoup de la famille et à nouveau des mères et des filles et de tous ces liens-là. Mais sur le couple, oui, il y a quelque chose comme ça. Pas dans une volonté de démontrer quoi que ce soit d'ailleurs, mais juste en décrivant les situations.
Est-ce que c'est pas un petit peu compliqué d'être le mec de Claire Castillon qui écrit de telles horreurs sur le couple ?
Ah bah, il faut lui demander.
Non, parce que je le connais en plus. Bon, ça va. Donc, peut-être qu'il ne lit pas vos livres.
Ah si, toujours.
Ah oui, d'accord.
Mais je pense que c'est vraiment... il faut, j'imagine, pour accompagner un écrivain dans la vie, ou moi, parce que je ne peux pas parler de tout le monde, pouvoir absolument comprendre tout ce qui est écrit ou ne pas comprendre et que ce ne soit pas un problème, en fait.
Qu'est-ce que vous pensez de la mode de la victimisation en littérature, tous ces livres où on... Voilà, on souffre beaucoup. On a l'impression que chez vous, la souffrance est présente, mais on ne se complaît pas dedans.
Ben, je pense qu'il faut transformer. Donc, moi, j'aime beaucoup partir de choses vécues, vues, entendues, etc. Mais si je ne les transforme pas, je pars du principe que ça va être très ennuyeux si je les raconte telles quelles. Donc, je pense qu'il faut les transformer avec sa tête, avec le temps, avec du travail.
Vous n'avez peut-être pas, là encore, je vais vous révéler des choses sur vous-même, parce que MeToo, c'est en 2017, et vous, qu'est-ce que vous faites en 2018? Vous publiez Ma Grande, qui est un roman où la femme est la méchante. Donc vous pensez qu'il existe des femmes fatales, des femmes dangereuses? Ça existe une chose pareille, mais vous n'avez pas honte d'écrire des choses aussi insupportables?
Bah, Ma Grande, c'était vraiment, alors à nouveau, jamais dans un élan pour dire le contraire ou pour dire tout court, mais vraiment pour écrire, j'ai eu l'idée de ce personnage d'homme qui raconte pourquoi il a tué sa femme, et on apprend tout le long du livre à quel point sa femme était un monstre. Et je ne l'ai pas fait parce que c'était un homme qui racontait, je l'ai fait parce que j'avais ce portrait de femme atroce et que ça me plaisait de l'écrire. Et puis que surtout quand j'écris, il faut que j'aie mes personnages très forts dans la tête et que naturellement, ça s'est fabriqué comme ça. Et que je pense que d'ailleurs, ça aurait été l'inverse, ça ne m'aurait pas intéressé. Une femme qui aurait tué son... C'est ce qu'un éditeur m'a proposé d'ailleurs.
Oui, pour vendre plus.
J'ai proposé, alors pas chez Gallimard, hein, mais où on m'a dit d'accord, à condition qu'on inverse l'histoire et que la femme soit battue et tue le mari par vengeance. Et j'ai dit, non, c'est pas le livre. Le livre, c'est ça.
Bah, cela dit, vous avez aussi écrit Son Empire en 2021, une petite fille qui décrit sa mère amoureuse d'une brute épaisse, ce qu'on nomme aujourd'hui un pervers narcissique.
Oui.
Donc vous avez fait aussi traiter le sujet inversé.
Mais j'ai à nouveau vraiment pas fait parce qu'il faut le faire, mais parce voilà, justement cette fois-là pour évoquer cette figure de monstre qui absorbe la mère, l'enfant et toute la maison.
Avec cette phrase que j'avais adorée, donc c'est une fillette de 7 ans qui aime sa mère, qui aime un connard, et elle dit « Je perds ma mère ». Ça, c'était une phrase qui m'avait ému. Alors, bon, j'ai pu démontrer que j'avais lu 20 livres de Claire Castillon, mais revenons au dernier, L'Œil, ce recueil de nouvelles, avec après chaque nouvelle, une annexe. D'où vous est venue cette idée des annexes? Parce que cette idée est particulièrement géniale.
En fait, je pense que j'avais fait déjà pas mal de recueils de nouvelles avec une chute. Et j'ai toujours un problème à refaire les choses en me disant j'ai envie d'aller plus loin, mais je voulais pas que ça fasse truc. Et je me suis dit, et si à chaque fois l'histoire était racontée, alors pas forcément autrement, mais en gros, si j'écrivais deux chutes, ce serait mieux. Et voilà comment c'est venu.
Oui, parce que pour moi, la nouvelle, l'art de la nouvelle, c'est l'art de la chute. C'est d'amener vers la chute. Et chez vous, il y a ce retournement, cette double chute qui est vraiment une forme que vous venez d'inventer. Donc, je vous félicite, parce que c'est très agréable et très marrant à lire. Voilà, si vous voulez dire merci pour les compliments.
Je veux bien dire merci. En fait, c'est ça. C'est pas toujours une double chute. C'est aussi parfois un regard qui fait que ça renforce la violence de l'histoire ou l'ironie.
Voilà. Alors, donc, je soulignais votre liberté par rapport au climat actuel sur les relations hommes-femmes et tout ça. Mais enfin, vos textes sont féministes. Exemple, la mère qui n'a jamais un instant pour elle-même, dans la nouvelle intitulée Léopold, et qui rêve d'un garçon qu'elle a embrassé à 15 ans. C'est son seul bonheur, sa seule utopie.
Oui, ben il lui revient en mémoire alors qu'elle essaie désespérément de prendre sa douche le soir et qu'on l'appelle dans la maison pour faire ceci et cela. Et elle a tout à coup cette image, ce prénom qui la prend tout entière sous la douche et la suite, et la chute.
Ah,
quand
mais
même,
non, alors on va
qu'on
pas,
peut là, pas donner.
On peut pas raconter. Vous avez aussi souvent un décalage entre la vie quotidienne et le fantastique. Est-ce que vous pensez que la vie normale, entre guillemets, est surréaliste?
Oui, pas toujours, mais je suis assez souvent envahie par des images dont je me dis que je suis contente de savoir les accueillir, parce que parfois c'est bizarre, parfois c'est étrange, parfois ça me permet de ne pas m'ennuyer de temps en temps, de me dire mais ces gens-là sont très étranges.
Là, par exemple, en ce moment, vous voyez des choses étranges dans ce salon chez La Pérouse?
Pas vraiment, parce que quand il y a un décor aussi beau, par exemple, on n'est pas... J'ai pas besoin de me transporter, j'y suis, en fait. Mais c'est davantage, voilà, dans la rue, dans le métro, dans les rapports entre les gens. Ouais. Je suis souvent secouée par la présence des autres, donc je pense que j'ai besoin de leur inventer quelque chose.
Oui, puis de toute façon, les gens normaux n'existent pas. Tout le monde est fou, ça j'en suis convaincu, comme vous, je pense. Votre deuxième choix musical, c'est un fou, c'est Frédéric Chopin. Étude numéro 11, Le vent d'hiver. Thank you. pu entendre La Folie de Chopin, interprétée par Georges Chiffra en 62. On retrouve Claire Castillon juste après quelques messages.
Le maître du thriller, Franck Thillier, est de retour en librairie. Dans La Faille, le commandant Charcot se confronte au pire de la nature humaine. Une enquête où la science ignore l'éthique. Préparez-vous à basculer dans La Faille. Le nouveau roman de Franck Thillier, disponible chez Fleuve Édition. Fleuve Édition, à chaque page son univers.
Bonjour, c'est Abrutiri. Et si nous partions ensemble pour Milan, à la Scala bien sûr, avec le lac des Cygnes et le Barbier de Séville, mais aussi pour visiter la Villa Medici Giolini, la Pinacothèque de Brera et, surprise, une promenade sur le lac Majeur. Beau programme, non ?
De la Scala de Milan au lac Majeur, Bel Canto et Dolce Vita avec Eve Ruggieri, un séjour radio classique du 17 au 21 septembre avec Intermed, le spécialiste du voyage culturel. Réservation au 01 40 08 50 40 ou sur intermed.com.
Le festival Les Rencontres Musicales de Cambrai fête sa 7e édition. Colorée, partageuse, enjouée, du 30 juin au 8 juillet. 10 concerts où se côtoient jeunes talents et artistes internationaux. Sirba Octet et la maîtrise de Cambrai, humour musical avec les Bombecs, l'ensemble Décibel, de la musique de chambre avec le quintet de l'Opéra de Paris, le trio Gobert et en clôture, le pianiste Philippe Bianconi et l'Orchestre Philharmonique des Hauts-de-France dirigé par Jean-Pierre Viard. Plus d'infos sur musical-cambrai.fr.
Quand Solène a pris l'option cyberprotection pour sécuriser ses données pro sur son ordinateur, elle a tout de suite été
super soulagée.
Et son associé
aussi.
Bah oui, une protection contre les pirates,
c'est le top.
Surtout si on ne veut pas voir ses projets tomber à l'eau.
Vous ne comptez pas vos heures, mais vous pouvez compter sur nous grâce à l'option cyberprotection. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux clients Orange Internet Pro haut débit. Conditions et détails sur orangepro.fr ou au 3901. Service gratuit, appel au prix d'une communication normale selon offre détenue.
Jusqu'à 20h, conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Avant la pause, Claire Castillon, je disais tout le monde est fou sur Terre, mais en fait c'est pas de moi, c'est de Jacques Lacan. Jacques Lacan, il a dit « toutes les femmes sont folles ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase ?
Bah, j'ai beaucoup de doutes, moi, sur la définition de la folie. Je sais pas. Alors les femmes et les hommes, je dirais, j'en sais rien en fait.
Mais écoutez, je vais vous donner des exemples alors. Oui. Par exemple, dans votre livre, L'œil, il y a une nouvelle avec une femme qui loue sa maison mais reste dedans pour pourrir la vie des couples de locataires. Et même elle finit par les tuer.
Oui, mais vous avez encore dit la chute.
Ah zut, pardon.
C'est pas grave.
Mais ça, c'est pas un comportement tout à fait, enfin, recommandable.
Non, alors, mais voilà, moi, ce que j'aime, c'est le point de bascule, c'est-à-dire que c'est une femme âgée qui accueille un couple, qui a envie d'avoir de la présence, de prendre l'apéritif avec ces gens pour pouvoir leur raconter sa vie, etc., etc., et qui bascule à un moment donné. Est-ce qu'elle bascule à chaque fois qu'elle a deux locataires ? Je crois pas. C'est que là, leur bonheur lui a fait trop mal, en fait. Donc, c'est cette fois-là, en tout cas. Parfois, on est fou. Ça, c'est plus juste.
Il y a un autre personnage dans vos nouvelles qui passe son temps à regarder les vidéos de surveillance d'un collègue de bureau. Où allez-vous chercher ces idées ? J'essaie de vous
Alors,
faire avouer
elle,
votre...
Elle est très érotomane, pour le coup. Mmh. Donc, en effet, elle a développé sur ce collègue de bureau une certaine... enfin, une fixette. Et donc, elle... Mais c'est encore la chute.
Ah non, non, mais je... Ah, zut, oui. Oh, pardon,
non,
ah,
non,
excusez-moi.
C'est pas grave.
Bon, non, mais c'est j'essaie
c'est
de.
Presque la chute.
Je pense quand même que même si j'ai dévoilé quelques histoires, je donne plus envie en racontant ce qu'il y a dans le livre qu'en ne disant rien du livre parce que je ne l'aurais pas lu, vous voyez, par exemple. Comme font d'autres animateurs d'émissions littéraires. Vous parlez de la modernité beaucoup. Par exemple, il y a une nouvelle sur un grand-père qui découvre Instagram.
Ah oui. Et qui croit pouvoir accéder, en effet, à sa famille, à ses enfants, à ses petits-enfants, en leur parlant par Instagram, puisque voilà, c'est là que tout se joue aujourd'hui. Et puis qui voit avec horreur sa famille présenter le pire d'elle-même en images. Mmh. Et y a une chute.
Ah oui, et bah, vous avez presque eu envie de la raconter. Là, je ne l'ai pas fait, vous voyez. Mais alors, je reviens à ma question précédente. Est-ce qu'un écrivain comme vous, qui se met dans la peau de tous ces personnages, qui sont tous des personnages quand même excessifs, ou des personnages décalés, est-ce que le métier d'écrivain ne rend pas schizophrène, un tout petit peu?
Je crois pas. Je pense que c'est fatigant. Mais je le dis vraiment, il y a une fatigue parce que ça s'arrête jamais. Parce que je vois bien que plus j'avance dans les livres et dans le temps, plus je travaille et plus ça me prend du temps. Donc je suis pas capable de m'arrêter. Ça, c'est fatigant. Mais le reste, pas du tout. Je pense qu'il y a une maîtrise absolue de ce qui traverse la tête en même temps.
Alors, vous écrivez aussi des romans pour enfants. Comment on peut appeler ça? Oui,
des romans et des...
Des livres jeunesse. Des livres. Et notamment, là, vient de sortir une série chez Albin Michel Jeunesse intitulée « Oreilles du bois joli ». C'est la vie d'une chienne et c'est une prosopopée. Vous saviez ça?
Non.
Ben, faire parler un animal, bravo. Ça s'appelle une prosopopée. Et donc, la chienne, Colline, c'est la vôtre.
Oui.
Et la chienne,
Oreilles,
c'est celle du livre. Mais vous êtes inspiré de votre chienne, Colline?
Absolument.
Absolument. Donc, vous devinez ce que pense Colline?
J'invente, je ressens, j'imagine. Et c'est une chienne de refuge, en fait. Abandonnée beaucoup de fois parce qu'elle répond pas aux demandes des humains. Elle est mauvaise chasseuse, mauvaise gardienne, mauvaise compagne, etc. etc. Et ça raconte la vie du refuge un peu comme une petite société de personnes, donc humaines, avec à peu près les mêmes enjeux qu'entre les gens.
Mmh. Mais Zoré, il y a quand même une particularité, encore une fois, parce qu'on est chez Claire Castillon, ça ne peut pas être normal. Elle fait des bébés avec un chat.
Oui. Alors, il ne faut pas le dire. Mais...
Ah bah, écoutez, alors si je ne pourrais rien dire sur vos livres, enfin
alors,
franchement...
Alors, c'est la chute.
Non, pas, c'est
non,
pas
non,
vrai.
Du non, du premier non. Tome. Non,
oui,
tout
voilà.
Va bien.
Elle fait des bébés avec un chat.
Voilà, voilà, elle tombe amoureuse d'un chat et ensuite elle a des enfants. Mais peut-être qu'il y a un chien qui passait par là.
Et d'ailleurs, les enfants d'un chat et d'un chien s'appellent comment?
Des chias.
Des chias. Voilà, oui. Très bien. Nous sommes toujours normaux et vous êtes toujours sur Radio Classique, tout va bien. Nous allons passer maintenant au grand jeu Devine tes citations. Comme je sais que Claire Castillon écoute Conversation d'un enfant du siècle, eh bien, elle connaît les règles, je n'ai pas besoin de les réexpliquer. Je les réexplique peut-être pour les rares auditeurs qui ne sont pas au courant. Donc je vais lire des phrases de Claire Castillon, elle doit retrouver dans lequel de ses livres elle a écrit ceci. Elle m'énerve avec son cancer, elle n'a pas idée.
Insecte.
Eh oui, Insecte, en 2006. Alors, c'est là où vous avez trouvé ce fameux ton pour les nouvelles. Est-ce que quand vous écrivez, vous partez d'une phrase? Vous avez une idée de phrase comme ça, cette phrase-là, et hop, ça vous entraîne quelque part?
Parfois oui, parfois pas du tout. Parfois j'ai une idée de titre, parfois j'ai rien. Le plus souvent, j'ai du vide. Et j'écris, et je me dis qu'il n'y a personne, la phrase est vide, jusqu'à ce qu'elle soit pleine et que j'entende qu'il y a un personnage. Mm-hmm. Mais je ne pars pas toujours d'une phrase.
Je vous donne un autre exemple, qui à mon avis est peut-être, j'espère avoir raison sur celle-là. J'ai toujours su que j'étais la mère de mon neveu.
Oh, ça doit être Insecte aussi.
Mais les bulles.
Ah, zut.
Ouais, 2010. Là, c'est typiquement la phrase où, j'ai toujours su que j'étais la mère de mon neveu, faut imaginer quelque chose.
Ouais. Oui. Oui. Alors là, en général, pour les nouvelles, j'ai quand même un peu l'histoire. Et je ne me souviens pas de celle-là.
Oui, d'accord.
Non, je vais le relire.
Alors, troisième phrase. Quand nous faisons l'amour, il me demande de lui parler. Je lui dis, je t'aime. Il répond, mais non, enfin, trouve autre chose.
Les couplets.
Donc, en gros, vous trouvez que dire « je t'aime » est une phrase anti-sexy?
Lui, oui.
Mm-hmm. Mais développer cette idée.
Je suis pas là. Non, ça dépend.
Ouais.
Ça dépend.
D'accord.
Ça dépend à qui.
Quatrième phrase. Je suis la femme de l'homme qui ne réussit pas. Je suis la numéro 2 d'un numéro 3. Le même.
Les couplets.
2013. Je me suis dit, avec cette personnage de femme qui reproche à son mec de ne pas réussir, où en est-on de l'égalité femme-homme? Peut-on être égaux dans un monde où tout le monde veut réussir?
Ah oui,
c'est pas une compétition, ça?
Mais non, mais enfin, vous pouvez pas me demander ça à moi qui me pose jamais ce genre de questions. Je sais pas comment. On peut pas. C'est vrai que ça m'effleure même pas l'esprit, jamais. Donc c'est un problème, j'ai pas la réponse.
Mais donc vous êtes pour l'égalité entre les hommes et les femmes quand même?
Ah, bien sûr.
Et vous êtes d'accord avec le fait que les hommes et les femmes sont très différents?
Oui.
D'accord. Bon, je suis très heureux parce que je pense les deux, et moi aussi. Oui. On peut être égaux en étant différents. Et elle me regarde. Non, parce qu'en fait, c'est vrai que dès qu'on aborde ces questions-là, on se dit, merde, je vais dire une phrase et après, ça va me suivre à vie. Donc, il faut faire attention. Alors, vous avez un troisième choix musical. Alors là, attention, c'est la plus grande histoire d'amour jamais imaginée par l'homme. C'est Tristan et Iseult de Richard Wagner et c'est le prélude. C'était donc Tristan et Iseult. Je rappelle que c'est l'histoire d'une femme qui se victime d'un date rape, puisque Tristan lui fait boire un filtre d'amour avant de s'emparer d'elle. Vous n'avez pas honte de ce choix?
Non, jamais, jamais. Mais en plus, c'est vrai que c'est la bande originale de Mélancolia,
oui,
qui est un film dans lequel je voudrais habiter, je crois.
C'est quand même un film où il y a la fin du monde et vous avez envie d'habiter dans l'apocalypse. Claire Castillon.
Ça m'a rarement fait ça dans un film, mais dans celui-là, je me suis dit je veux pas quitter.
Alors peut-être la salle.
Je veux pas quitter l'endroit. Je suis dedans. Je sais pas comment dire. C'était plus fort que tout.
Oui, c'est vrai qu'il est très beau ce film. Il est très très beau.
Voilà.
Avec Charlotte Gainsbourg qui construit un tipi en bois. Qui emmène ses enfants sous le tipi en bois et regarde la météorite s'approcher de la Terre. C'est votre idéal
Jusqu'au tipi. Ouais, la maison avant est pas mal.
Ah oui, vous préférez la maison plutôt que le jardin. Et alors, c'était le prélude de Tristan et Isolde par le Stadtkapelle de Dresde, dirigé par Carlos Gleiber en 1980. Carlos Gleiber qui a été le sujet d'un livre de Bruno Le Maire, Musique absolue, et Bruno Le Maire qui sera notre invité dans 15 jours. Voilà, je voulais signaler cette réalité. Claire Castillon. Alors, on va passer maintenant à vos biographèmes. Alors, les biographèmes, c'est les aspérités de chaque écrivain. Est-ce que, par exemple, quand on dit de vous que vous êtes une bourgeoise qui fantasme, ça vous plaît ou vous déplaît ?
Il y a plus grand-chose qui me déplaît. Ça m'a déplu, parce que j'aime pas tout ce qui limite les gens et tout ce qui parle des gens quand on les connaît pas. Oui. Mais maintenant, ça me dépasse.
On vous a connu dans les années 2000 parce que vous fréquentiez Patrick Poivre d'Arvor. Alors, je vous en parle comme ça. Vous êtes une de celles qui ne l'accuse pas de viol. Vous avez des nouvelles de Patrick ?
Non.
Non ? Bon. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on vous a découverte et ça a été assez violent. Je pense que cette notoriété rapide et soudaine a sans doute... peut-être nuit à la lecture sereine de vos livres.
Ah oui, là, je suis d'accord.
Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ?
Ben, de la même manière, j'aime pas renier les choses, etc. Donc, j'ai bien vu qu'il y avait un choix qui était fait de la part de certains journalistes qui n'était pas juste, mais c'était comme ça.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème quand on est joli ? Est-ce que le fait d'être joli a pu nuire à la crédibilité de l'écrivain Claire Castillon ?
Je crois pas. Je pense que ce qui nuit aujourd'hui, c'est de ne pas faire partie des groupes, de ne pas essayer de copiner avec plein de monde, de ne pas sortir, de ne pas voir les gens. C'est ça qui nuit.
Et vous êtes agoraphobe ?
Non, je ne le suis plus, mais j'aime pas réseauter. J'ai pas envie que vous m'invitiez parce qu'on a passé 25 soirées ensemble, mais parce que vous avez lu mon livre et que vous l'avez aimé.
Bon, je précise, j'ai jamais passé une seule soirée avec Claire Castillon. Voilà. Je préfère le préciser, parce que si vous dites ça, les gens vont s'imaginer l'inverse. Oui, c'est ça. Ben, oui, vous avez raison, vous avez raison. Mais je pense quand même qu'il y a eu sans doute une injustice à votre égard. Je crois qu'on ne vous a pas pris assez au sérieux comme écrivain. Et je pense que vraiment, vous l'êtes. Vous l'avez prouvé maintenant depuis l'an 2000. Ça fait donc 23 ans que vous publiez... un livre tous les deux ans, quoi, à peu près. Shop Talk, une autre rubrique très intéressante. Parlons boutique. Alors, votre méthode de travail, êtes-vous discipliné ou indiscipliné ?
Hyper discipliné.
Oui, bah, parce que mère de famille.
Mais même toujours discipliné. Enfin, c'est-à-dire que, en gros, je fais que ça, sauf quand je fais autre chose, mais je travaille beaucoup.
Mm-hmm. Vous prenez des notes ?
Jamais.
Non ? Donc, jamais. Vous attendez devant votre feuille blanche et vous n'êtes pas tétanisé.
Si, toujours. J'attends que quelque chose que j'ignore arrive. Et quand il arrive, je ne comprends pas ce que c'est. Donc j'essaye de trier et de comprendre ce que c'est. Non, c'est tout le temps la panique, mais c'est très intérieur. C'est pas survolté.
Vous avez un bureau chez vous, oui. Une chambre à soi, comme dit Virginia Woolf.
Oui, j'ai un bureau.
Formidable. Les ventes de vos livres, ça monte ou ça descend ?
Alors, je les demande pas. Je dirais pas. Ça avait descendu et depuis que je suis chez Gallimard, je trouve que c'est remonté.
Très bien.
De ce que j'en sais.
Ben, j'espère qu'avec celui-là, ça remontera parce que franchement, les gens là pour cet été, lire l'œil, les nouvelles de Claire Castillon sur la plage, c'est des nouvelles très courtes, donc vous n'avez pas besoin de plus de quelques minutes pour lire ça. Vous pouvez le lire allongé sur le sable. Vous vivez de votre plume ou vous avez d'autres métiers ?
Moi, je fais pas mal de rencontres scolaires et parfois quelques articles.
Et plus les livres jeunesse ?
Oui.
Ouais. Des envies de cinéma ?
Pas du tout.
De chansons ?
Pas du tout.
De crêperie ?
Ah, de crêpes !
De crêpes, des envies de crêpes ? Des envies de monter un cirque ? Non, je ne sais pas.
Non, pas cirque. Bon. Un refuge de galgo.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est des lévriers espagnols.
Ah !
Voilà.
Donc vous voulez créer un refuge de lévriers espagnols.
Voilà, donc quand j'aurai vendu beaucoup de livres, je voudrais faire ça.
Mais ils risquent de s'accoupler avec des chats.
Ouais, peut-être.
C'est ça le
Mais
problème.
J'en aurais pas.
Non, d'accord. Quel est le livre que vous auriez voulu écrire ?
Le mur invisible. De Marlène Haushofer.
Ah, j'avoue, j'ai une faiblesse, là.
Ah, alors, il faut que vous le lisiez.
Oui. Qu'est-ce que c'est ?
C'est l'histoire d'une, d'une femme qui part en week-end chez des amis et qui refuse d'aller avec eux prendre un verre en ville. Elle a envie d'aller se coucher. Le lendemain, elle se rend compte qu'ils ne sont jamais rentrés du village. La maison est vide, elle va se promener. Et dans le champ autour d'elle, elle se rend compte qu'un mur en verre a été érigé, qui fait tout le tour du champ. Et d'elle, enfin bon voilà, elle est enfermée derrière ce mur en verre. Et de l'autre côté, les gens ont été pétrifiés. Donc sans doute, est-ce une fin du monde ? Et elle raconte dans l'urgence sa survie seule dans cet endroit.
Dans une cage en verre.
Très vaste, mais oui. Très seule.
Ah. Donc en fait, vous aimez penser au confinement ?
J'aime... les livres qui se passent en effet dans une tête, en fait. Et là, une tête qui, en plus, se situe dans un lieu fermé, en général, ça me plaît. Et ce livre-là particulièrement, parce que je pense que c'est une allégorie de l'angoisse. Mmh. Et j'aurais adoré pouvoir l'écrire comme ça.
Et quel est le pire livre que vous ayez jamais lu ?
Ah, oh là là, mais j'aurais voulu avoir la question avant.
Ah oui, vous avez le droit de réfléchir.
Oui.
Oui, je peux vous poser une autre question ? Pendant que vous réfléchissez... Ou alors, on envoie une musique. On n'a qu'à envoyer une musique. Voilà, très bonne idée. On va envoyer votre dernier choix musical, le choix de jazz. C'est le clarinettiste argentin Gioria Feidman qui interprète The Klezmer Feidman. Thank you. Claire Castillon a pu réfléchir pendant qu'on entendait le klezmer, qui est un style de musique juive ashkénaze, par Diorra Feidman. Donc, quel est le pire livre que vous ayez jamais lu, Claire ?
Alors, comme je suis lâche, je ne peux pas citer les pires livres, vraiment, mais il y en a un que je n'arrive pas à lire et que pourtant je veux lire parce qu'on m'a dit qu'il était pour moi. C'est Confiteor de Romé Cabré, pardon pour l'accent, oui, que j'ai acheté, je crois, 3 ou 4 fois et que j'ai offert systématiquement à des gens parce que j'y arrive pas. Et pourtant, je sais qu'un jour, j'y arriverai.
Bon, on l'espère, ce serait un grand jour. Quelle est votre odeur préférée ?
C'est une odeur assez provençale de terre très très chaude l'été, avec peut-être un tout petit peu de pain, de figuier, une odeur comme ça, mais très aride.
Et enfin, quelle est la chose la plus bizarre que vous ayez jamais mangée ?
Pensez
à des voyages exotiques. On vous a servi, je ne sais pas, de l'autruche.
Non, je vais vous dire la vérité, je cherche.
Vous m'entendez me resservir de la vodka pendant ce temps-là.
Je pense aux matières plutôt. Je cherche dans les desserts là, les trucs un peu gluants qui ne sont pas de la jelly, mais qui sont... Ça, j'aime pas trop, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Mm-hmm. Imaginons des loukoum glaçons, mais ça n'existe pas, mais cette matière-là.
C'est peut-être un sujet pour un prochain roman.
Merci.
Oui, que je vous fournis.
Qui s'appellera Douce.
Ça s'appellera Calamar gluant glacé. Merci infiniment, Claire Castillon, d'avoir passé cette heure en ma compagnie. Je rappelle le titre de votre recueil de nouvelles qui vient de sortir, L'œil, chez Gallimard. Et vraiment, c'est la lecture de l'été. Je remercie toute l'équipe, le producteur Philippe Gault, Thomas Coste à la réalisation. Sans oublier Jérémy Bigori pour la programmation musicale. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Laure Maison pour le journal du classique. Et la semaine prochaine, nous recevrons Pierre Assouline. Merci infiniment. Alors, bon week-end à tous et surtout à toutes.